Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Quel plaisir de vous retrouver pour Ça se dispute ce vendredi avec Julien Drey. Bonsoir Julien.
Bonsoir.
Et Gilles William Golnadel.
Plaisir
bonsoir,
partagé, bonsoir
Gilles William. Le point sur l'information et on parle de l'affaire Adrien Quatennens et du malaise de la France insoumise dans un instant.
En Iran, au moins 50 morts dans les manifestations réprimées par le régime. Cela fait une semaine que le pays est secoué par des protestations. Aujourd'hui, des milliers de personnes ont défilé à l'appel des autorités pour défendre le port du voile et dénoncer les mercenaires après une semaine de manifestations déclenchée par la mort d'une jeune femme arrêtée par la police. En Ukraine, les autorités annoncent avoir exhumé 436 cadavres. Ils étaient enterrés dans une forêt près de la ville d'Izium, un territoire repris aux Russes. La plupart des corps présentent des signes de mort violente et 30 d'entre eux témoignent même d'actes de torture. Hasard du calendrier, l'ONU affirme aujourd'hui que des crimes de guerre ont été commis en Ukraine. Une page d'histoire du tennis se tourne ce soir. Roger Federer va jouer le dernier match de sa carrière à Londres. Le Suisse jouera en double avec Rafael Nadal pour la Laver Cup. Début du match à 21h45. Et c'est dans le cadre de cette compétition qu'un militant écologiste a mis le feu à son bras en plein milieu du cours. Il a rapidement été évacué par le service d'ordre. Sur son t-shirt était écrit en anglais « Fin des jets privés britanniques », le nom d'un groupe écologiste.
On tâchera d'en parler en fin d'émission. Militant écologiste qui donc met le feu à son bras avec marqué fin des jets privés britanniques. Voilà où on en est donc dans le militantisme. Mais avant cela, parlons de la France insoumise. Avis de tempête, l'affaire Adrien Quatennens ébranle le parti, pris dans leur propre piège. Les députés insoumis sortent les rats mais alimentent la polémique. Nouvel exemple ce vendredi matin, Manuel Bompard, député des Bouches-du-Rhône, c'était l'ancienne circonscription de Jean-Luc Mélenchon, se lance en fait dans une hiérarchisation des violences. On l'écoute, on en parle.
J'essaye de faire la part des choses. Une gifle n'est jamais acceptable, mais une gifle n'est pas égale à un homme qui bat sa femme tous les jours. Et une gifle n'est pas égale à une personne qui est accusée de viol après avoir drogué les personnes qui l'accusent. En tout cas, c'est les accusations qui sont portées à son encontre. Ce sont des accusations. Bien évidemment, il y a aussi de la présomption d'innocence. Il faut qu'on arrive sur ces sujets à avoir de la nuance.
Alors face au tollé provoqué, il a décidé de s'expliquer par communiqué. Voilà ce qu'il dit. Je n'ai jamais dit ni pensé qu'une gifle n'était pas grave. C'est un fait grave et inacceptable. Et je l'ai rappelé ce matin. Je rappelle seulement des principes fondamentaux. Proportionnalité et individualisation de la peine. Je me tourne vers l'avocat que vous êtes, William Golnadel. Qu'est-ce que vous en pensez de cette nouvelle polémique autour de la déclaration de Manuel Bompard? Bon,
d'abord, sur la présomption d'innocence, c'est une stupidité puisque Quatennens, il a reconnu la gifle. Pour le reste... Écoutez, il a raison. Il a raison. Sur le plan juridique, quelqu'un qui est traduit en justice pour avoir giflé une femme va être moins condamné que si, effectivement, il l'a battue pendant 2 heures et moins... Voilà, c'est une évidence. Sauf que ce lieu commun, s'il avait été prononcé par un autre... quelqu'un qui n'est pas insoumis, un pauvre type de droite, par exemple, il y a encore 15 jours... Mais Monsieur Bompard et ses amis, mais ce serait jeté sur lui. La réalité, elle est là. C'est qu'on ne pardonne pas, à juste titre, à ces gens-là de cette conduite, de cette manière. Donc, en réalité, moi qui suis plus... Enfin, je ne sais pas si je suis optimiste, mais là, je veux voir les choses de manière optimiste. D'une part, je pense que les insoumis et les insoumises, parce que Mme Autain, qui était la féministe très hautaine, si j'ose dire... Elle est restée aux abonnés absents pendant que tous ses camarades ont été.
On va les entendre dans un instant.
Je vais dormir le soir. Je compte les insoumis qui sont mis en cause. Je n'en sais même plus où j'en suis. Et j'y vois d'ailleurs le sommet de la tartufferie. C'est que je pense véritablement, vous savez, comme je dis toujours, celui qui a le discours le plus sévère, c'est lui le plus pervers. Comme par hasard, ce sont ceux-là qui sont mis en cause. Mais pour en revenir à mon optimisme, si j'ose dire, à tout jamais. Les insoumis, à mon avis, enfin pendant longtemps, ne la ramèneront plus en matière de féminisme. Et d'autre part, peut-être que les gens on s'aperçoit bien qu'effectivement, Il n'y a rien que mieux que la justice. Il n'y a rien que mieux que la justice. Et Dieu sait s'il y aurait à dire sur le système judiciaire français. Mais on ne vit pas dans un monde parfait. Hein. Ça ne vous a pas échappé. Le système, si j'ose dire, le moins mauvais, en matière de présomption d'innocence, en matière de respect de la vie privée, c'est la justice. Et certainement pas les petits copinages de la France insoumise.
Pour résumer, ce que vous êtes en train de dire, c'est que la France insoumise est plus attentive aux droits concernant Adrien Quatennens qu'ils n'ont pu l'être pour, par exemple, Damien Abad ou Gérald Darmanin.
Vous avez un meilleur sens de la synthèse que moi.
J'essaye de faire vite. Julien Drey.
Je crois que on est en train d'essayer, tout doucement, j'espère que ce sera toute la société, de revenir à comprendre pourquoi on a inventé le droit et pourquoi on a inventé des principes liés au droit. On a fait cela parce qu'on a voulu éviter ce qu'on appelait la justice populaire rendue à la va-vite par des foules qui disaient, notamment pendant la Révolution française, à la guillotine, à la guillotine. Et évidemment, il y a toujours quelqu'un qui vient en rajouter en disant c'est celui-là. Et c'est comme ça qu'on, cette formule qui dit que la Révolution dévore ses propres enfants. Oui. Il y a toujours plus. Bon. Voilà, on est en train de se rendre compte que la présomption d'innocence, le fait qu'il y ait un état de droit, qu'on respecte les procédures, qu'on fasse attention, etc., sont nécessaires pour que ça soit la justice et pas le règlement de compte. Uh-huh. Et c'est ça qui aujourd'hui est essentiel. Alors les insoumis, ils font suite à d'autres choses aussi, parce qu'ils se sont laissés emporter par cette vague de justiciers. Ils ont voulu même, certains d'entre eux ont voulu se prendre pour des procureurs, ou les procureurs, je ne sais plus comment on dit maintenant. Et maintenant, ils sont pris à leur propre piège, parce que c'était inévitable. Alors, s'ils reviennent à la raison et qu'ils comprennent qu'il y a un certain nombre de principes et qu'il faut les respecter, qui sont énoncés, il faut les tenir par M. Bompard aujourd'hui, parce que la hiérarchie des peines, l'individualisation plutôt, ce sont des choses, effectivement, c'est pour ça que chacun doit le juger. Le contexte n'explique pas le comportement, ne justifie pas, mais on doit quand même y porter attention. Bon, voilà. Alors, ce moment est assez difficile parce que, par ailleurs, je vois en même temps que, notamment chez les plus jeunes, il y a une sorte d'exaltation maintenant à ce type de situation. Et il faut justement qu'on fasse de la pédagogie pour expliquer.
On va y venir également. Mais c'est la déclaration d'Éric Zemmour. Je vais vous faire réagir, Gilles William, mais je veux juste que vous puissiez voir ce qu'a pu dire Éric Zemmour hier. C'est un peu comme quand on découvre le curé au bordel. On a envie de se moquer de lui car il nous a fait la morale dans des circonstances autres. La France insoumise, c'est la même chose. Est-ce qu'ils sont en train de subir, en quelque sorte, William, les foudres de ce tribunal médiatique qu'ils ont eux-mêmes alimenté pendant des mois?
C'est le Tartuffe. C'est en ce moment, on joue le Tartuffe et la tartufferie de l'extrême gauche insoumise inspire maintenant une risée bien compréhensible et j'étais le premier à en rire. Là où j'ai une petite divergence avec Julien Drey, c'est que je ne crois pas du tout, je crois que c'est antinomique de penser que la gauche insoumise peut revenir à la raison. Par définition même, l'extrême gauche n'est pas raisonnable et elle est amnésique. C'est-à-dire que les gens, l'extrême gauche, par exemple communiste, ils ont approuvé Staline, mais pour autant, ils trouvent Castro très bien. Ne leur demandez pas de la bonne foi, de la mémoire et de la raison.
Julien, peut-être en un mot.
Non, je dirais, il ne faut pas tout mélanger non plus. Je veux dire, on peut avoir défendu Cuba tout en condamnant ce qui s'est passé par la suite, parce que Cuba, à un moment donné, c'était aussi l'affrontement avec ce que représentaient les Américains et qui n'était quand même pas gentil avec le peuple cubain, pour le moins. Donc je ne voudrais pas tout mélanger, parce que je pense qu'à force de tout mélanger, on ne sait plus où on en est. Dans la gauche, il y a des gens qui ont respecté les principes, et notamment, c'est pour ça que j'ai été trotskiste. Parce que c'était ceux qui étaient les défenseurs de la pureté et d'une certaine vérité, et qu'ils refusaient les procès en sorcellerie et les jugements péremptoires. Maintenant, ne nous trompons pas quand même. Il y a quand même un processus politique dans la société. Moi, j'essaye de voir, comme le fait Gilles William, le bon côté, mais il y a aussi un emportement dans la société. Et je veux dire, les réseaux sociaux ont donné une place particulière à ce type de comportement, parce qu'il y a des gens qui sont en train de se bâtir une carrière politique. Faut pas se le cacher, ce qui est en train de faire Sandrine Rousseau, qui n'a rien à voir avec l'écologie. J'ai toujours pas entendu son discours sur l'écologie. Mais la manière dont elle instrumentalise, parce que maintenant c'est elle qui instrumentalise les médias. Et elle le dit d'ailleurs avec une formule formidable, step by step. Elle a donné la méthodologie. Elle a aussi maintenant, je dirais, j'ai vu un certain écho, parce qu'elle donne le sentiment d'être une sorte de chevalier blanc avec une société qui lui tombe dessus, mais elle dit sa vérité. Mmh. Voilà. Et donc il faut aussi, sur ces questions-là, être intransigeant, c'est-à-dire d'abord défendre les droits. Et je m'excuse, mais...
Elle supporte mal le tribunal médiatique. Elle a quitté le plateau de nos confrères de LCI ce matin.
Justement, je vais vous revenir là-dessus. Si elle n'était qu'une personne parmi d'autres, c'est son droit de dire ce qu'elle a envie. Quoi. Je veux dire, sa liberté d'expression. Si ce qu'elle dit est une bêtise, on le dit. Si ce qu'elle dit est condamnable, on... Mais elle est députée de la République.
Bien sûr.
Et un député de la République, ce n'est pas n'importe qui pour moi. Donc quand un député de la République se permet d'aller à la télévision et de dénoncer un autre député de la République... Alors elle dit, elle a dit à vos confrères, je me suis permis ça parce que ce n'est pas pénalement répréhensible. Elle n'en sait rien, parce qu'elle n'est pas la justice. Donc normalement, elle doit appliquer ce qu'on appelle l'article 40. Et qu'un député de la République ne s'applique pas les lois qu'il est censé voter et défendre, est déjà un problème. Et donc le déontologue de l'Assemblée nationale aurait dû rappeler cela, parce que ça, c'est fondamental.
C'est pareil, au-delà du rappel au règlement, Julien Dray, ce qu'elle a fait à Julien Bayou... est quand même assez invraisemblable. D'abord au niveau du secret des choses, elle explique, bien que ce soit d'après elle pas pénalement répréhensible, que la compagne de Julien Bayou était au bord du suicide, etc. Donc ça voulait dire que Julien Bayou s'était conduit de manière ignominieuse. Mmh. Si ça n'était pas Julien Bayou, ce que je vous ai rappelé sur la manière dont les insoumis et ELV ont traité par-dessus la jambe, la présomption d'innocence et le respect à la vie privée, M. Bayou m'inspirerait la plus grande des compassions.
On va avancer un tout petit peu. Je voulais vous montrer la séquence à l'Assemblée nationale. On va quand même la voir, parce que c'est la séquence signe de ce grand malaise du côté de la France insoumise. C'est peut-être la séquence qui nous a le plus marqué cette semaine, lorsqu'il y a la conférence de presse, qu'un journaliste lui pose la question aux députés, et qu'ils sont sans voix. Et ils ont même du mal à prendre la parole.
Ils se battent pour ne pas prendre le micro.
Et surtout, en réponse, en réaction aux propos, au soutien de Jean-Luc Mélenchon à Adrien Quatennens sur les réseaux sociaux. On regarde.
Nous avons un communiqué de presse qui a été fait par la coordination des espaces de la France insoumise, dans lequel nous nous retrouvons toutes et tous.
Nous assumons que nous tâtonnons, que c'est une question difficile. Nous l'avons toujours dit, y compris dans ce que nous défendons. Moi, je fais partie de la commission des lois. On a eu des textes portant sur la question de la lutte contre les violences. Et nous, on a toujours assumé que c'était une question difficile.
Julien.
Non, Julien. On en revient aussi au principe. Moi, je pense que la méthodologie qu'ils ont employée dans la phase précédente, c'est-à-dire de mettre en place des systèmes internes au parti, qui étaient chargés d'enquêter, qui étaient chargés de vérifier, était une méthodologie folle. Parce qu'on voit bien l'utilisation et l'instrumentalisation. C'est-à-dire que des membres de cette commission s'estiment liés par aucun secret.
Mais la référence que vous faites à la Révolution française, pour moi, est toute trouvée.
Mais c'est aussi ça que je veux mettre en cause. C'est-à-dire qu'il y ait des commissions qui soient chargées de vérifier, de rappeler les principes, etc. Mais sur des cas individuels de cette nature-là, la commission, elle doit transmettre à la justice. Parce qu'il n'y a que la justice qui peut dire la vérité.
Non, mais sur cette scène extraordinaire, on voit bien que toutes et tous ne la rabaisent pas. Robespierre a un peu perdu de sa superbe.
Jean-Luc Mélenchon, justement, hier, a eu un geste que certains considèrent comme déplacé. On va voir l'image. Il a été questionné dans la rue par le journaliste Paul Gagné sur son soutien à Adrien Quatennens. Il a assumé, d'ailleurs, pour son soutien. Il dit « Monsieur, je pèse mes mots tout le temps. C'est vous qui regrettez ce que vous êtes en train de me dire. » Et il s'est retourné. Et donc, il a tapoté la joue d'un journaliste et du journaliste en question. Écoutez Marlène Schiappa. Elle a réagi à cette... je ne sais pas comment l'exprimer, tapoter la joue du journaliste.
Je trouve que ça montre à quel point il n'a pas compris en fait les enjeux de consentement et les enjeux de respect du corps de l'autre. Parce que toutes les personnes qui sont attachées à la question du consentement, c'est mon cas, moi jamais j'irai vous attraper la joue, jamais. Pourquoi ? Parce que je respecte l'espace personnel de l'autre, je respecte le corps de l'autre et je ne touche pas l'autre sans son consentement. C'est ça en fait qui se joue dans le consentement. C'est ne pas frapper, c'est ne pas abuser du consentement, c'est ne pas abuser sexuellement d'une autre personne. C'est aussi ne pas toucher cette personne. Donc je ne mets pas les choses sur le même plan, je ne dis pas que ça équivaut à une agression, mais il y a derrière une menace en disant vous allez regretter, etc. Et en allant saisir la joue d'un journaliste qui est un geste pour le moins déplacé, envers qui que ce soit, et singulièrement envers la presse. Je veux dire, la liberté de la presse, c'est quelque chose de fondamental pour lequel, là, encore une fois, la France se bat partout dans le monde.
William ?
Bon, écoutez, je considère que je ne veux pas défendre M. Mélenchon. Enfin, je pense que Marlène Schiappa, intellectuellement...
Il est allé trop loin ?
Mais il était dans une manière de mépris. Ah, il n'est pas dans l'affection, hein. c'est pas une
tape. Pas une caresse.
Ah, mais c'est pas une caresse. C'est pas, enfin, de là à expliquer qu'il a attenté au corps de l'autre, c'est pas ça. Il a été hautain, il a été dédaigneux, il y a du mépris là-dedans, c'est tout. Mais très sincèrement, depuis déjà un ou deux ans, je trouve que M. Mélenchon, sur le plan psychologique, file quand même un mauvais coton.
Et ça rejoint le sondage qu'on a pu avoir IFOP pour Sud Radio. 53% des Français qui se disent inquiets par Jean-Luc Mélenchon. C'est quasiment 20 points de plus qu'en 2017. Sur le personnage, dans le fond et la forme.
Alors, si vous me permettez, je vais... chose telle que je le pense. Ce gouvernement est aujourd'hui en train de faire feu de tout bois. Il voudrait essayer d'éviter qu'on parle des vrais problèmes qui sont posés par sa politique. Donc on les voit tous se précipiter, vous savez, comme à la sortie du village d'Astérix pour aller se faire le Romain, et chacun se bouscule. Je préférerais qu'ils se bousculent pour nous expliquer leur politique, notamment ce qu'ils font contre la grande distribution, notamment ce qu'ils font aujourd'hui la crise énergétique. Parce que là, je veux bien qu'on en rajoute. On voit bien ce qui s'est passé. Il est énervé, il est agacé. Alors on peut dire, Jean-Luc Mélenchon s'énerve beaucoup, Jean-Luc Mélenchon s'agace, il a pas mis une tarte aux journalistes, il a pas cassé la figure. Alors on peut dire, c'est paternaliste.
Vous relativisez,
voilà,
monsieur.
Vous êtes en train de faire une bonne part.
Hein, voilà. Il nous fait une bonne part.
Oh là là. J'ai des désaccords avec Jean-Luc Mélenchon, mais dans la bataille politique, j'aime gagner sur la politique. Ouais. Sur les idées, pas sur le reste.
Je ne vais pas faire l'avocat de Marlène Schiappa, mais c'est un journaliste ou une journaliste qui lui a posé la question.
Elle n'est pas obligée de répondre sur le respect de l'autre, le corps de l'autre, etc. D'autant que, si vous voulez, je suis à peu près certain, je ne vais pas être méchant, parce que je ne vais pas être dans la dénonciation, mais je connais plusieurs ministres qui ont tendance aussi parfois à prendre la main, à prendre le bras, à s'approcher, etc.
Monsieur Drey a raison, mais enfin, si par hypothèse intellectuelle, c'était Zemmour qui avait fait ça, je peux vous dire que ça serait passé autrement. Rappelez-vous quand il avait fait sa plaisanterie
avec le revolver, avec le sniper.
Ce que je veux dire, il a fait la une de tous les.
On en a parlé toute la journée d'hier.
Plus profondément, quand vous dites que Mélenchon, il est en chute libre, il est en quête, c'est la France insoumise. La France insoumise, cet été, a été évidemment sur les charbons ardents en ce qui concerne l'islamisme. Sa complaisance par rapport à l'islamisme, sa complaisance par rapport au palestinisme avec le dépôt de loi sur le boycott d'Israël, sa complaisance Salman par rapport Rushdie. Au djihad islamique, et maintenant ça n'est plus l'islamo-gauchisme, c'est l'hypocrisie en matière de féminisme. Effectivement, ils sont quand même en chute libre,
hein. Juste remarquer que quand il y a eu la résolution concernant l'État d'Israël, un certain nombre de grandes voix qu'on entend aujourd'hui, je ne les ai pas entendues.
À qui pensez-vous ?
Un certain nombre de membres du gouvernement.
C'est possible.
L'éducation nationale qui met l'éducation, autre thématique, l'éducation nationale qui met les académies de France en alerte. Des notes ont été envoyées aux recteurs soulignant une mobilisation sur les réseaux sociaux visant à remettre en cause la loi de 2004. Le nombre d'élèves d'ailleurs arrivant en tenue islamique grandit. Vous allez voir le sujet d'Augustin Donadieu. Il a justement fait un tour des réseaux sociaux pour voir à quel point justement il y a cette mobilisation 2.0 en quelque sorte.
Elle se compte par dizaines sur les réseaux sociaux. Ces vidéos postées sur Twitter et la plateforme TikTok en particulier deviennent rapidement virales et font le tour des cours de récréation. Dans la plupart des vidéos, les étudiantes incitent au port de la tenue islamique en se mettant directement en scène dans les établissements scolaires avec une orthographe approximative. Va dire au boss qu'on a repris la zone. Des vidéos d'incitation donc, qui vont même jusqu'à expliquer comment tromper l'éducation nationale, comme celle-ci, vue par près de 300 000 jeunes internautes.
Celle-ci est super pratique pour les étudiantes en lycée, collège ou école, parce qu'elle est rétractable. Comme vous pouvez le voir, c'est une abaya à double tissu qui peut se transformer en tunique. Il suffit juste de rentrer la première couche dans votre bas et c'est fini. Bye bye les surveillants islamophobes.
Des vidéos qui n'ont pas échappé au comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation. Ce dernier parle de comptes gravitant autour de la mouvance islamiste qui remettent en cause le principe de laïcité à l'école dans le but de déstabiliser l'institution scolaire. Mais bon, il faut que je fasse comme si de rien n'était.
Julien André, est-ce qu'on est dépassé par ce phénomène et est-ce qu'on en fait assez du côté du ministère de l'Éducation nationale?
Alors il y a deux choses. Est-ce qu'on est dépassé? Est-ce qu'on en fait assez? C'est
justement
pas la même.
Non. Voilà. Deux questions en une.
Ouais, je sais que vous voulez tout synthétiser, mais la réponse sera pas la même. Est-ce qu'on est dépassé? Non. Parce qu'il y a une mobilisation de la société qui existe, donc on n'est pas dépassé. Est-ce que le gouvernement et surtout le ministère de l'Éducation nationale en fait assez? Ma réponse est là, non. Je veux dire, on a un ministre de l'Éducation nationale qui, sur ces questions-là, visiblement, est assez hésitant. Certains m'avaient dit, tu vas voir, il va être exceptionnel, il a très bien maîtrisé tout ça. Pour l'instant, je veux bien avoir une entrevue avec lui, mais je trouve qu'il est vraiment en retard. Il est en retard, et par ailleurs, il faut que les choses soient claires. Ce n'est pas une déclaration et deux phrases. Hein. Là, maintenant, c'est armer les enseignants. C'est-à-dire que, y compris l'administration de l'Éducation nationale doit être soutenue. Parce que si on a un ou deux proviseurs qui montent en première ligne et qui sont abandonnés parce qu'il ne faut pas faire de bagues, parce qu'il ne faut pas faire de problèmes, qui sont menacés, etc. Voilà. Alors la question qui est posée, elle est là.
Non, mais je trouve que Julien Dray a le sens de l'euphémisme. Pape Ndiaye, on parlera peut-être de lui plus tard, je ne sais pas.
Juste après la pub.
Bon, mais ne fait rien là-dessus. Il est beaucoup plus préoccupé par les stéréotypes de genre que par ces histoires-là. Effectivement, il y a une offensive de l'islam politique.
Alors, il a réagi cet après-midi, il dit on attend les chiffres.
Il n'a pas toutes les informations. C'est la meilleure manière de relativiser.
Il faut reconnaître que c'est vigoureux. Et attendez, il ne fait strictement rien. Il y a une offensive des frères musulmans, même, très clairement. Et voilà, à Paris, la semaine dernière, il y avait d'ailleurs un éditorial de dans le Figaro Magazine de cette semaine. Vous avez une fille qui a voulu, contre la loi, porter le voile lors d'une sortie scolaire. La responsable scolaire a voulu l'en empêcher. Le grand frère est arrivé et lui a dit « je vais te défoncer ». Il a voulu s'en prendre. Alors il a été arrêté 12 secondes et après il est ressorti. Je n'ai pas vu, sur ce sujet-là, je n'ai pas vu la moindre réaction de notre ministre de l'Éducation nationale.
Mais moi je voudrais insister, il faut être extrêmement ferme maintenant, parce que c'est ça sinon qui va fabriquer à la fois d'un côté la radicalisation et de l'autre l'islamophobie, même si j'aime pas ce terme. Parce que je pense qu'il y a une partie de nos concitoyens qui commencent à en avoir assez, ces comportements. Qui ne disent rien, qui sont silencieux. Jusqu'au jour, ils le seront de moins en moins. Parce que ce qu'on voit, c'est effectivement une forme agressive, prétentieuse, menaçante parfois, dès qu'on fait des remarques. Moi, ça m'est arrivé, il n'y a pas longtemps encore, de faire des remarques sur un certain nombre de comportements et d'attitudes. Et bon, j'ai un certain âge, j'ai une canne, donc on m'a respecté, mais je vois bien que si je n'avais pas eu ma canne et je n'ai pas un certain âge, j'en prenais une. Donc ça suffit.
La publicité. Vous vouliez qu'on parle de Pape Ndiaye et le ministre de l'Éducation nationale. On en parlera juste après la pub.
Mais il faut attendre la publicité.
Ah oui, vous attendez. Patience.
D'accord.
À la deuxième mi-temps de Ça se dispute avec Julien Dray et Gilles-William Golnadel, on va parler de Pape Ndiaye dans une seconde. Mais avant cela, le point sur l'information avec Yann Effley.
Ce qu'il considère comme de faux référendums d'annexion russe en Ukraine. Largement condamnés par la communauté internationale, ils se tiennent en ce moment et jusqu'à mardi. Des scrutins qualifiés de simulacres par Kiev et les Occidentaux dans les régions contrôlées par Moscou. Ce vote en zone de guerre est une escalade de plus dans la guerre en Ukraine. Le gouvernement envisage d'augmenter le prix du paquet de cigarettes. C'est le journal Les Échos qui le révèle. Il pourrait passer d'environ 10,30 euros actuellement à plus de 11 euros. La dernière hausse date de fin 2020. Et puis c'est l'une des conséquences de la crise énergétique en France. Certains monuments municipaux cesseront d'être éclairés à partir de 22h ce soir à Paris. L'hôtel de ville notamment est concerné, la tour Eiffel également. Elle sera désormais éteinte au départ du dernier visiteur à 23h45.
Pape Ndiaye, le ministre de l'Éducation nationale, a cette semaine évoqué le concept de race lors d'un déplacement dans une université de Washington, historiquement afro-américaine. Les questions ethno-raciales sont, selon lui, difficiles à aborder en France. La faute aux résurgences des mouvements extrémistes. On l'écoute.
L'extrême droite.
Le concept de race, comme vous le savez, est encore très sensible en France. Nous sommes actuellement dans un contexte politique où les organisations d'extrême droite sont puissantes, comme aux États-Unis d'ailleurs, et il est difficile d'aborder les questions ethno-raciales de manière nuancée et complexe. Et je peux vous parler du prix à payer si vous osez parler de ces inégalités ethno-raciales. Notre système éducatif reste massivement gratuit, contrairement aux États-Unis, de la maternelle à l'université, mais la réalité incite à une approche plus concrète que les idéaux. Les inégalités, les discriminations, les différentes formes de racisme existent en France, bien sûr, malgré nos idéaux.
Volontairement, on a pris la séquence plus longue pour avoir vraiment toute la réflexion de Pap Ndiaye. Qui parle là ? Est-ce que c'est l'historien proche des thèses racialistes ou le ministre de l'Éducation nationale, William Goldnadel ?
C'est malheureusement les deux. Je ne suis pas responsable du fait que M. Macron a cru devoir nommer un intellectuel qui est devenu racialiste, parce qu'au départ c'était quelqu'un de modéré et de brillant, mais qui est devenu, lors de son passage aux États-Unis, racialiste, devenir ministre de l'Éducation nationale. C'est un racialiste proche du CRAN. Il était conseiller du CRAN, qui est une organisation racialiste en France. Et il va à l'étranger expliquer dans un pays qui est racialement, il nous parle de la nuance, qui est racialement à feu et à sang pour des questions raciales. Et il regrette aux États-Unis, en bavant sur la France, il regrette aux États-Unis que la France n'est pas racialiste. C'est ça qui fait. Donc moi, je suis désolé de vous dire que j'en veux plus à ceux qui ont nommé quelqu'un qui est obsédé par la race. Il est obsédé donc par la race. C'est quelqu'un qui a déclaré que quand un blanc est agressé, ça n'est pas du racisme parce que le blanc fait partie de la race dominante. Mais bon, il pense ce qu'il veut, c'est son droit le plus strict. Mais moi, je pense que ça a été un mouvement de basculement terrible de la part du président de la République de nommer, ça ne lui a pas d'ailleurs porté bonheur aux élections, de nommer ce monsieur pour s'occuper de nos enfants. Il y a quelque chose qui, franchement, qui échappe à mon entendement. Le seul avantage qu'il présente, peut-être, mais enfin il est faible, c'est qu'il plaît aux syndicats de l'éducation nationale qui ne sont pas quand même extrêmement éloignés de ses conceptions.
Julien Drey, j'ai le souvenir au moment de sa nomination qu'on avait eu un vif échange. Et vous aviez dit, je n'ai pas envie de le juger sur ce qu'il a pu écrire auparavant, j'ai envie de le juger sur les actes, sur ce qu'il va faire à la tête du ministère de l'Éducation nationale.
Alors, moi j'ai écouté les propos.
Ouais.
Et excusez-moi, ils sont d'une confusion totale. Malgré le fait que nous avons affaire à un grand intellectuel qui a certainement de grandes qualités, que je ne connais pas bien, mais en tous les cas, c'est tout ce que j'ai entendu dire par toute une série de gens qui le connaissent. Mais là, il nous explique quand même. Il commence par nous dire qu'il y a un concept de race. Après, il mélange le combat pour les inégalités avec le combat en faisant une confusion avec la notion de race. Moi, jusqu'à maintenant, je m'excuse, mais je m'en tiens à des principes. Les races n'existent pas. Après, il y a des discriminations raciales, ça c'est autre chose, mais les races en tant que telles n'existent pas. Mais si un ministre de l'Éducation nationale commence par dire qu'il y a un concept de race, je pense que ça crée la confusion. Voilà, premier aspect des choses. Deuxièmement, sur le plan de l'Éducation nationale, il n'a pas trop mal réussi sa rentrée parce qu'il n'y a pas eu trop d'agitation, mais au prix de quel sacrifice ? Parce que j'ai des échos sur la manière dont on a engagé un certain nombre de profs et comment on a bouché les trous, au prix de quel sacrifice ? Par ailleurs, je ne vois pas bien quel est son objectif, si ce n'est pas de vent, pas de vague. Et on passe à autre chose. Je ne vois pas bien se dessiner le profil d'un grand projet éducatif de rénovation de notre système, de remise en cause d'un certain nombre de dysfonctionnements totaux. Et oui, alors après, il va nous dire le système scolaire français, et il y a des discriminations, il y a des inégalités. Oui, mais son rôle, c'est justement de les combattre et de montrer comment on peut les combattre.
Il s'est expliqué cet après-midi après cette déclaration. Écoutez-le, il essaye de réaffirmer sa déclaration.
Oui. Vous savez que je suis un homme de nuance et dans cette université américaine, j'expliquais les différences, les contrastes qui existent entre la France et les États-Unis. Il y a des ressemblances, mais il y a aussi des différences importantes. Et devant cet auditoire américain, je faisais en quelque sorte œuvre de pédagogie en expliquant ce qu'est la laïcité à la française et puis également le fait que la République est aveugle aux différences privées, aux différences physiques. C'est un point de contraste avec les États-Unis. Ça n'était pas un jugement que je portais sur ce contraste. Je notais cela en universitaire que je suis. J'ai étudié ces questions pendant de très nombreuses années, comme vous le savez.
Non, non, Il nous raconte n'importe quoi. On a bien entendu ce qu'il disait. Nous avons affaire à un Américain racialiste à Paris qui regrettait aux États-Unis qu'en France, on n'ait pas le concept de race et qu'on n'ait pas conscience du privilège blanc.
Stein.
Je vais malheureusement pencher pour ce que vient de dire Gilles Louis, parce que les explications qu'il donne là n'éclairent pas ses propos. Au contraire, il crée encore plus de confusion. Parce que la République, elle n'est pas aveugle aux discriminations. Au contraire, elle essaye de se donner tout. Et justement, quand on est ministre, on devrait dire, justement, la République n'est pas aveugle, c'est pour ça que je vais me donner tous les instruments. Je lui rappelle juste au passage que grâce à SOS Racisme, dont tout le monde critique, il y a désormais à l'intérieur de l'éducation nationale une semaine d'éducation contre le racisme et les discriminations.
Parce que je suis dans un bon jour,
voilà.
Je ne vais pas refaire l'histoire de SOS Racisme.
Mais vous avez entendu qu'il avait dit...
Julien
Drey a dit, je vais malheureusement pencher vers ce qu'a dit Gilles-William Goldnadel.
Moi, j'ai un grand respect pour les intellectuels,
oui.
Mais ce qui se comprend, s'énonce clairement.
Je peux vous faire un aveu ?
Oui.
Au moment de sa nomination, j'ai acheté son livre pour essayer de comprendre un peu la réflexion de Pap Ndiaye. Incompréhensible. C'est tellement technique,
ben
que ce n'est pas compréhensible. Vraiment.
Vous allez me passer le livre.
Essayez
de voir si.
Écoutez, je vous le donne pour la semaine prochaine. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Mais bon, c'est un salaire d'universitaire. C'était une réflexion d'universitaire.
Non, mais à sa
décharge.
Méprisons.
Stein, s'il vous plaît. Le maire de Stein, ville de Seine-Saint-Denis, au cœur d'une vive polémique, puisqu'il y a une plaque en hommage à la première femme de Mahomet qui a été déposée au-dessus de l'une des rues de la ville, la rue de Pontoise, dans le quartier dit du Maroc. Le maire de Stein plaide l'expression artistique de citoyenne et un projet participatif voulant mettre en avant des femmes inspirées. Il était l'invité de Jean-Marc Morandini ce matin. Écoutez le maire de Stein.
Si que parfois vous puissiez aussi parler et d'autres initiatives que nous menons ici à Stein, tant sur le plan culturel que sur le plan, citoyen.
Merci beaucoup, monsieur le maire. Juste petite question, parce qu'on voit, il y a visiblement derrière vous, on va remontrer l'image, il y a le drapeau palestinien. Il y a le drapeau français aussi, quelque part?
Bien sûr, il y a le drapeau français, bien sûr.
Dans votre bureau?
Mon bureau est assez grand, il y a le drapeau français, et puis il y a le drapeau aussi italien, il y a le drapeau marocain, il y a le drapeau de toutes les villes de coopération. Nous sommes en coopération avec l'Algérie, avec le Maroc, avec l'Italie, avec l'Allemagne. Comment ?
Il y a le drapeau israélien aussi ?
Comment ?
Il y a le drapeau israélien aussi ?
Non, il n'y a pas le drapeau israélien, il y a le drapeau palestinien.
Merci, monsieur le maire.
Alors, messieurs, au Sable d'Olonne, le tribunal administratif valide le déboulonnage de la statue de l'archange Saint-Michel. Mais à Stein, vous avez des plaques en hommage à la première femme de Mahomet.
Ben, tout est là. Moi, je ne suis pas très objectif parce que monsieur le maire de Stein a porté plainte contre moi.
Contre vous ?
Ah oui, contre moi.
Qui ferait ça ?
Je vous le dis, il a osé. Depuis, d'ailleurs, je suis...
Est-ce que vous prenez un avocat dans ces cas-là ? Est-ce que vous prenez un avocat ?
Je compte lancer une cagnotte, justement, pour pouvoir m'offrir un avocat. Ceci posé, vous voyez à quel point je suis terrorisé. Parce que j'aurais dit... je m'en souviens un peu, mais c'est bien possible. En tous les cas, je ne regrette pas. J'aurais dit visiter Stein, capitale de l'islamo-gauchisme. Je vous avoue qu'après avoir appris que monsieur le maire avait décidé de consacrer le nom d'une rue, remplacer la rue de Pontoise par la rue d'une des femmes
de
Mahomet, et qu'on présente comme une commerçante, je veux dire, elle est célèbre pour être la femme de Mahomet. Je vous avoue que je ne regrette pas davantage mes propos, encore en apprenant qu'il insiste bien sur le fait qu'il a un drapeau palestinien, mais pas israélien, ce monsieur. Effectivement, vous avez parfaitement raison que lorsque je vois que dans le même temps, vous avez la justice administrative qui trouve le moyen de chasser Saint-Michel du parvis d'une église, malgré le fait que 95% des habitants des Sables d'Olonne ont plébiscité ce qui est aussi, je vous signale, une statue, c'est aussi une œuvre artistique. Et quand je vois ce qui se passe à Stein, effectivement, je vous mentirais en disant que je regrette ce que j'aurais écrit.
Je viendrai.
Alors, je vais vous faire une confidence, je ne suis pas assez féru de la religion musulmane et surtout du Coran pour savoir quel est le rôle particulier qu'a joué la femme de Mahomet qui justifierait qu'elle soit honorée à ce point. Mais peut-être que je vais le savoir dans les heures qui viennent parce que je vais me pencher là-dessus. Mais franchement, c'est un peu déplacé de faire ça. Comme
c'est
ça.
Une plaque éphémère. Hein.
Oui, mais même que ce soit plaque éphémère ou pas.
Non, mais j'essaie de recontextualiser. Il y a plusieurs femmes qui ont.
Voilà, d'accord, mais à quel titre, quel est son rôle?
Bien sûr,
Moi, je veux bien qu'on enseigne plein de choses, mais voilà, donc c'est un peu. Sur le fond, c'est un acte provocateur. Il n'y a pas d'autre explication que de faire un acte provocateur pour dire, vous voyez, etc. Mais j'ajoute surtout que le maire de Stein a raté une bonne occasion. Parce que quand on lui pose la question. Il a le drapeau palestinien, il est pour le droit du peuple palestinien, avoir un État, etc. La bonne réponse aurait été de sa part, justement, dans le cadre de ce que représente son rôle, de dire « mais moi j'espère bien avoir une coopération aussi avec l'État israélien parce que j'espère en la paix ».
Est-ce que vous voulez qu'on parle de l'Iran à présent ? Pourquoi ? Parce que depuis l'assassinat, ou la mort, pardonnez-moi, de Mahsa Amini, 22 ans, vous avez un élan de mobilisation contre la police des mœurs en Iran. 50 morts depuis le début des mobilisations. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on voit le sujet de Karine Boutloub et on en parle juste après.
Voiture incendiée, affrontement avec la police ou encore femmes qui ôtent leur voile, les protestations se poursuivent en Iran. Depuis une semaine, plusieurs civils ont été tués. Au moins 31 selon l'ONG Iran Human Rights, moitié moins d'après le gouvernement. Plusieurs chefs d'État ont condamné le décès de Mahsa Amini suite à son arrestation pour port de vêtements non appropriés. Des manifestations ont également éclaté à travers le monde. Une hypocrisie occidentale selon le président iranien.
Lorsque ces incidents se produisent dans le monde entier, la même norme doit leur être appliquée. Demander des enquêtes uniquement sur cette question, pourquoi ne pas demander exactement la même chose pour ceux qui perdent la vie aux mains des forces de l'ordre et aux autres agents partout en Occident, en Europe, en Amérique du Nord, aux États-Unis?
Ces dernières heures, les accès à Instagram et WhatsApp ont également été ralentis ou totalement bloqués. Selon l'ONU, ces restrictions visent à étouffer la liberté d'expression et limiter les manifestations. Les autorités iraniennes démentent.
Cette mesure a été prise à cause des actions menées via ces réseaux sociaux par des contre-révolutionnaires contre la sécurité nationale.
Ce vendredi, une autre manifestation devrait avoir lieu devant l'université de Téhéran, cette fois-ci en faveur du port du voile et du gouvernement.
Julien Drey, quel regard vous portez sur cette mobilisation en Iran? Peut-être que ce qui est intéressant, c'est de voir le deux poids, deux mesures, c'est-à-dire que vous avez des femmes qui luttent contre le port du voile en Iran et nous...
C'est la troisième révolte populaire en moins de 7 ans à peu près qui se passe en Iran. Mm-hmm. Mais à chaque fois, ces mobilisations ont été très fortes. Le sang a coulé et le monde a regardé ailleurs. On s'est débrouillé pour regarder ailleurs. Et là, c'était parti pour. Parce que ça fait plus de 8 jours qu'un certain nombre d'entre nous, sur les réseaux sociaux, etc., disions attention, attention. Alors maintenant, ça commence à bouger, tant mieux. Mais j'espère qu'un certain nombre de quotidiens qui sont très intransigeants sur ces questions-là vont être capables de faire la une et vont être capables de mobiliser. J'espère qu'il va y avoir des manifestations un peu partout. Je sais qu'il y en a une dimanche à Paris. Il était temps. Parce qu'il ne faut pas laisser ces femmes et ces hommes iraniens qui se battent et qui se battent contre un des régimes les plus dictatoriaux qui soient à l'échelle de la planète tout seuls. Il faut vraiment essayer d'isoler l'Iran. Alors je sais qu'il y a beaucoup... Il y a beaucoup de lobbies pro-iraniens, commerciaux, etc., qui interviennent, qui essayent de relativiser, etc. Mais on est dans un moment particulier où les choses peuvent basculer, parce que pour la première fois, ce n'est pas simplement telle ou telle région, mais la contestation a gagné tout l'Iran. Les universités viennent de
rentrer. Dans le sang et les larmes.
Voilà, les universités, c'est important, parce que les universités, comme le rappelait un ami à moi, ont été des monts clés pour la chute du Shah, sont rentrées en lutte. C'est clair que ce régime est prêt à tirer, à tuer, à torturer, mais il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et quel courage! Excusez-moi, moi j'ai une admiration totale. Je suis rien à côté du courage de ces femmes.
Et j'avoue que je suis assez pessimiste. Parce que si jamais ça se gâte encore, ben les gardiens de la révolution, qui seront le bras armé de la République islamique, ben ils tireront dans le tas. Je veux dire, pour ajouter un peu à ce que vient de dire très bien Julien Drey, que je pense que l'État iranien, c'est l'État le plus médiatiquement épargné du monde. Là, on parle effectivement de ce qui se passe parce que c'est les femmes, encore que les féminismes, nos féministes, sont pas du tout intéressés par ça. Moi, j'ai une consoeur qui a été mise en prison en Iran parce qu'elle avait osé rentrer en cheveux au tribunal. Les féministes, ici en France, maintenant, c'est parce que ça ne concerne pas le mâle blanc, vous comprenez ? Donc ça ne les intéresse pas. Pour le reste, mais ça fait des années qu'ils pendent les homosexuels, ça fait des années qu'ils enferment ou qu'ils tuent les journalistes, ça fait des années qu'ils ont un programme nucléaire et qu'ils visent à éradiquer un certain pays de la planète. Il m'arrive même de penser que dans l'inconscient de certains, quelqu'un qui veut détruire cet État ne peut pas être tout à fait mauvais.
Vous parlez de la... Je ne sais pas si ça fait c'est vrai que ça fait des années qu'ils font ça, mais là, il se passe quelque chose. Et la solidarité mondiale doit s'exercer. La pression peut s'exercer sur l'Iran. Parce que les ayatollahs, certes, font semblant d'être indifférents à tout ça, mais ils font attention à leur image.
Vous parlez de la menace nucléaire en Iran. La menace nucléaire, elle se précise du côté de la Russie, puisque la guerre en Ukraine a pris un nouveau tournant cette semaine. Vladimir Poutine en appelle à la mobilisation partielle des Russes. Ça représenterait 300 000 soldats supplémentaires parmi les hommes. Et il y a une nouvelle fois cette menace nucléaire qu'il a brandie cette semaine. On l'écoute.
Je pense qu'il est nécessaire de soutenir la proposition du ministère de la Défense de mettre en place la mobilisation partielle. Elle concerne les réservistes et ceux qui ont une expérience militaire. Ils auront une formation. J'ai signé le décret. La mise en place débute aujourd'hui. Si jamais les intérêts de la Russie sont menacés, nous utiliserons toutes les armes à notre disposition.
Je rappelle juste que 63% des Français craignent cette menace nucléaire. À longueur que le conflit s'éternise, est-ce qu'on avance petit à petit vers un conflit à l'échelle internationale, à l'échelle mondiale, William ?
Je suis pas moins craintif.
Vous faites partie de ces 63% ?
Non. Moi, je
c'est du bluff.
Non, franchement, non. Attendez, je vais pas jouer les stratèges de salon.
Non.
Mais je ne le vis pas. Je ne le vis pas comme une crainte. Je pense que c'est une réaction de faiblesse de M. Poutine. Je pense, je ne vais pas jouer maintenant les prophètes après coup. Il était très difficile de prévoir à ce point la déconfiture de l'armée professionnelle russe en Ukraine. Mais c'est vraiment extrêmement surprenant. Alors on peut expliquer par le courage et la détermination des Ukrainiens qui défendent leur propre pays, l'assistance américaine en munitions et en rationnement à très haut niveau, mais je ne savais pas le niveau de l'armée professionnelle russe aussi mauvais. Donc, et aussi le stock de munitions qui bon, donc c'est vraiment pour moi une
surprise.
Une très grande surprise. Mais pour répondre plus directement à votre question, à tort ou à raison, non, je n'ai pas peur.
Julien Drey, est-ce que vous faites partie de ces 63% de Français qui craignent cette menace nucléaire ?
Oui, je pense que malheureusement dans l'histoire, on a vu des situations qui échappent à la rationalité. Et il faut toujours prendre en considération cela. Tout n'est pas rationnel, tout n'est pas, je dirais, maîtrisable. Et la Russie, ce n'est pas n'importe quel pays à l'échelle de l'histoire. C'est un pays qui a une longue tradition, c'est un pays qui a une longue tradition, y compris de sacrifices. Le peuple russe a une identité propre.
Bien sûr.
Donc il faut faire attention. Voilà. Et le problème, c'est que nous sommes aujourd'hui avec un certain nombre de protagonistes qui ont des intérêts qu'on peut comprendre, mais qui sont des jusqu'au-boutistes. Le danger dans ce conflit-là, c'est le jusqu'au-boutisme qui conduit à ce moment-là à penser qu'on va mettre KO l'adversaire. Et comme on n'y arrive pas, l'adversaire, à un moment donné, a ce dernier réflexe de dire « puisque c'est le chaos pour tout le monde ». Je pense que c'est pour ça que la question qui est posée aujourd'hui, ce n'est pas d'aller faire des meetings exaltants aux Nations Unies. La question, c'est de trouver le chemin d'un cessez-le-feu et d'une paix négociée. Bien évidemment, tout ça conduit à ce qu'il faille négocier, il faille discuter. Alors on va me dire, je le sais déjà, ça y est, vous voulez sauver la face de Poutine, vous voulez sauver la face de l'agresseur, et vous ne vous rendez pas compte, vous êtes en train de capituler et tout. Non, je pense qu'on peut arriver, si on le veut, mais pas en rajoutant des mots aux mots, hein, et en tous les sens du terme. On peut arriver à trouver, parce que, vous savez, dans des conflits comme ça, l'intelligence, c'est trouver la porte de sortie. Oui. Et c'est là que la diplomatie doit s'exercer. Ouais, c'est là qu'il doit y avoir des diplomates qui discutent les uns avec les autres.
Je crains malheureusement que mon ami Drey soit dans le vœu pieux. C'est-à-dire que lorsque Poutine est en position de force, il ne veut pas négocier. Et quand il est en position de faiblesse, il ne peut pas négocier non plus. C'est difficile. Le peuple russe, c'est vrai qu'il est courageux, mais il est surtout courageux lorsqu'il est envahi, que ce soit par Napoléon ou par Hitler. Là, c'est qu'on le veuille ou non. Et Dieu sait que je n'ai pas une vision irénique des Ukrainiens.
Il y a un agresseur, un agressé.
Oui, il y a un agresseur, un agressé, ça.
Oui, non, il y a un agresseur, un agressé, ça.
Mais le problème, c'est est-ce qu'on pense qu'aujourd'hui, on peut arriver Et moi, je pense qu'on est dans un point de bascule.
Vous avez raison.
Poutine a eu une illusion, il croyait que ça allait être facile. Il était intoxiqué par ses propres services. Il s'attendait à être accueilli comme un libérateur. Il avait sous-estimé totalement la résistance du peuple ukrainien qui a été glorieuse et extraordinaire. Mais maintenant, la question qui est posée, elle est simple. C'est comment on sort de cette situation. Si on pense que c'est simplement en rajoutant des armes aux armes qui sont déjà présentes, en se disant qu'il va finir par craquer, vous savez, miser sur l'explosion de l'URSS et la fin de Poutine, c'est un risque.
Merci à tous les deux.
Non. Julien Drey a eu le dernier mot.
Non. Non, bah regardez, vous avez. C'est terminé. Dans un instant, c'est Julien Pasquier qui prend le relais pour l'heure des pros. Je voulais vous remercier parce qu'on a réussi à faire tous les thèmes. C'était une émission claire, limpide et de qualité. Merci à tous les deux.
Merci.
À tout à l'heure pour Soir Info Weekend.